Phase 2. Magnétique, Ivor Malherbe.
Et Vincent Zanetti, bonjour à vous et bienvenue.
Magnétique.
Vous l'avez vu mettre sa main sur le clavier du piano la première fois, vous vous en rappelez? Ou alors vous avez vu son regard brillant à un concert pendant le solo de saxophone? Alors il ou elle était haut comme trois pommes, et cet enfant est entré en musique. L'enfant devient musical, il devient musicien. En fait, ça s'est passé déjà bien avant. Mais bon, la suite de la vie musicale de l'enfant est pleine de jardins merveilleux, cultivés par des adultes musiciens, bienveillants et attentifs. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'enfant musicien en chemin avec deux invités, Cécile Paulin-Rogue, chanteuse, professeure de musique au Conservatoire de Genève et dans les écoles publiques du canton, Baiju Bhatt, violoniste indo-helvétique, professeur de violon qui a repris l'orchestre Mini Strings du Conservatoire de Lausanne. Et puis deux rendez-vous téléphoniques pour rebondir, l'un avec David Enco, trompettiste français qui conduit plusieurs projets en big band destinés aux enfants, et Hélène Vareille, présidente de la Fondation Vareille qui a initié un projet intitulé « Un violon dans mon école ». Et puis, vers 18h, eh bien, nous aurons le plaisir de rejoindre la pianiste italienne Rita Marcotulli pour un portrait de sorte. L'émission d'aujourd'hui est possible grâce à Christophe et Seva. Merci d'être là avec nous et encore une fois, bienvenue. Bonjour Vincent Zanetti.
Bonjour Ivor.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Alors, ces deux jeunes chanteurs, ils ont 5 et 6 ans au moment de l'enregistrement. Hein. Ils s'appellent Sankla Khan Manganyar et Sarup Khan Manganyar. ils appartiennent à cette caste des Manganiars. C'est pas leur nom de famille, c'est vraiment le nom de la caste, caste de chanteurs, poètes, musiciens du Rajasthan. Une des choses particulières dans cette caste, bah, d'abord, c'est qu'on est tous musiciens, forcément, dès l'enfance, filles et garçons, et on est musulmans. Ça, c'est la culture dans laquelle on grandit, mais on chante et on joue pour les castes hindouistes des Rajputs et des Brahmanes. Ça en dit long sur la complémentarité, non seulement de la culture, mais de la spiritualité aussi de ces gens-là, et puis d'une société traditionnelle qui ne se préoccupait pas des histoires de partage qui sont arrivées au moment de notre époque contemporaine, 1948.
Cette musique partition. A fait sourire un de nos invités que vous allez nous présenter.
Alors, nous avons la chance d'avoir autour de cette table Beiju Bhatt. Bonjour Beiju.
Bonjour.
Vous êtes violoniste et puis vous venez de publier tout récemment un disque avec votre ensemble Red Sun. Ça s'intitule Eastern Sonata. On en a déjà parlé ici à Magnétique, on en a parlé dans Versus, on en a parlé dans La Note Bleue. On parle beaucoup de vous sur Espace 2, mais on est toujours très content de vous recevoir. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous dirigez, vous entourez, en tout cas, un ensemble d'enfants, ça s'appelle les Mini Strings, des jeunes qui jouent du violon, sur la scène notamment, on en parlera tout à l'heure. Et puis aussi parce que la musique, c'est une histoire de famille, ça a commencé très tôt chez vous, mais vous êtes par le sang, par votre père, attaché à une dynastie également de musiciens, la grande famille des Bhatt. On a parlé ici de votre oncle à plusieurs occasions, Vishwa Mohan Bhatt, un des tout grands guitaristes de l'Inde, et puis votre père, Krishna Bhatt, un des très très grands ambassadeurs de l'art de la sitar hindoustani, hindoustani, sur les scènes internationales. Je sais pas, il y aurait tellement à dire sur la famille, je m'en tiens là pour le moment.
Et en plus, vous avez repris l'orchestre des Mini Strings du Conservatoire de Lausanne.
Comment en plus, je l'ai dit?
Ah ben alors. Alors du coup, je me penche vers notre autre invité qui est Cécile Polaroc. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur de musique au Conservatoire de Genève et à l'école publique aussi dans le canton. Vous enseignez à tous les âges les enfants depuis 3-4 ans jusqu'à qu'ils soient adultes pratiquement. Et puis vous avez participé à plusieurs éditions de disques et partitions destinées aux enfants, que ce soit le joli projet en hommage à Émile Jacques Dalcroze ou les fameux mini croches et autres sauts de croches qui sont une édition très connue en Suisse romande pour les francophones d'éditions destinées aux enfants. Alors notre thématique du jour, bien sûr, ce sont les enfants musiciens. Avec vous, tout à l'heure, on aura quelques coups de téléphone à écouter, qu'on va décliner avec Vincent Zanetti. Alors, la première question que Vincent Zanetti nous a suggérée, c'est de savoir quels sont, en fait, vous, on va commencer par vous, Cécile, votre premier souvenir d'enfance de musique.
Alors, ça remonte à loin. En fait,
mais non, pas tant.
J'ai l'habitude de dire que je suis née dans la marmite chant chorale. En fait, j'ai deux parents musiciens, chefs de chœur amateurs, et puis évidemment que j'entendais beaucoup chanter à la maison. J'ai aussi quatre grands frères qui jouaient tous d'un instrument, donc un pianiste, un flûtiste, un violoncelliste, un violoniste. Et on pourrait croire comme ça que mes premiers souvenirs musicaux d'enfance, ça allait être dans la famille. Puis quand j'y réfléchis, finalement, je me rends compte que curieusement, mes souvenirs les plus précis, c'est dans la voiture. C'est quand on était tous ensemble, qu'il n'y avait plus d'instruments et puis qu'on chantait. En fait, on chantait en voiture et là, en fait, je me rends compte que c'est les souvenirs qui sont les plus précis pour moi. C'est les souvenirs auxquels j'étais partie prenante, c'est-à-dire que je chantais aussi. Je n'écoutais pas... Oui, bien sûr, j'ai écouté mes parents chanter, mes frères jouer... J'étais vraiment dans un environnement stimulant musicalement.
Quel était le répertoire de la voiture?
Alors, quand c'était moi qui choisissais et que j'étais vraiment toute petite, je dirais que je pense que c'était Manic et Joe à Kepsimas. C'était vraiment des chansons, c'était les sauts de croche de l'époque, quoi. Et on chantait, enfin, je pense que c'était moi qui choisissais à ce moment-là. Et sinon, voilà, toutes sortes de chansons aussi pour soutenir les kilomètres.
Et par rapport à ça, donc il y a ces souvenirs assez jouissifs. J'imagine la voiture, c'est aussi les départs en vacances, ce genre de choses. Mais le fait d'ensuite rentrer en musique, c'est l'expression qu'a utilisée Ivor tout à l'heure. Est-ce que c'était lié à un choix évident, quelque chose qui s'est fait spontanément, ou est-ce que vous sentiez une espèce de pression du fait que les deux parents pratiquaient de la musique, les dirigeaient, que les frères pratiquent des instruments? Est-ce que c'était une manière d'exister, d'être obligé de passer par la musique?
Alors, j'ai aucun souvenir d'avoir été forcée. C'était plutôt comme une évidence, en fait. Ça faisait partie de notre quotidien, et voilà, après... Moi, j'ai choisi le violon, mais en premier instrument. Mais voilà, étant donné que la voix est tellement naturelle, je pense que dans notre famille, voilà, on a chanté. Maintenant, quand j'y pense, je pense que mes frères ont beaucoup moins chanté que moi. Donc non, je sais pas, il y avait un naturel, c'est parti comme ça.
C'est magnifique, et du coup, le violon comme premier instrument, ça m'amène à me tourner vers vous, Beiju, parce que le violon, ça s'est rentré très tôt. Vous vous souvenez aussi des premiers souvenirs?
Oui, bien sûr, c'est marrant parce que cette histoire de la voiture, ça m'a replongé dans plein de super souvenirs.
Je crois qu'on a tous ça en commun, avoir les sourires autour de cette table.
C'est très fort, ça, c'est très très fort. Alors, de mon côté aussi, il y avait de la musique partout, tout le temps, bien sûr liée... à mon papa et sa musique à lui. On écoutait aussi plein de choses qui ressemblaient beaucoup à ce qu'on a entendu au début de cette émission, etc., etc. Mais aussi, avec ma maman, on chantait pour s'endormir le soir, pour se réveiller le matin. Et je me rappelle qu'on chantait aussi pour se souhaiter bon appétit quand on se mettait à table, etc. Donc c'était très... c'est très intéressant parce que c'était une façon de mettre de la musique, de donner sens à quelque chose de musical au quotidien, etc., etc. Le souvenir que j'avais envie de partager par rapport à ça, c'était mes premiers cours de violon. J'avais 6 ans et puis voilà, je suis arrivé dans le salon de cette magnifique pédagogue Carla Sigrist qui était à Lausanne et puis qui était une des premières profs Suzuki de violon, qui est allé étudier au Japon avec Monsieur Suzuki lui-même, etc., etc. Et puis, bref, on va pouvoir en parler tout à l'heure, mais ce que j'avais envie de raconter, c'est quand je suis arrivé, il y avait cette feuille, cette grande feuille par terre, avec des empreintes de pieds. Alors, il y avait une empreinte pour faire le salut, on tenait le violon sous le bras et on faisait le salut au début du cours et à la fin. Puis après, il y avait l'empreinte de pied un peu plus écartée pour jouer la position de jeu. Et puis, bien sûr, quand on raconte ça maintenant, ça fait très très vieille école comme ça, etc. Mais en fait, c'était quelque chose d'extrêmement ludique et puis de très accessible. Et puis, je me rappelle que c'était quelque chose de très amusant. Donc voilà, j'ai encore la vision de ces feuilles un peu jaunies comme ça, avec ces contours de pieds faits au feutre comme ça, qui... Voilà.
Je vois Cécile Polareux qui sourit parce qu'en fait vous avez aussi quelques habitudes, quelques petits rituels avec les enfants, surtout quand vous avez une grosse chorale d'enfants devant vous.
Bon, alors j'ai une formation de rythmicienne Jacques Dalcroze, donc ce rapport au corps et à l'aspect ludique du travail, ça me parle beaucoup. Et effectivement, pour prendre en main un grand groupe, j'aime tout de suite passer par le corps, par des positions, des jeux. Ça peut être body percussion, ou ça peut être des exercices de respiration, voilà, des mouvements pour se mettre en corps avant de se mettre en voix.
Eh bien, peut-être pour jalonner à 17h20, enfin pour jalonner, surtout pour faire notre parcours en musique aussi, on écoute un extrait de votre dernier disque, Beiju Bat. Thank you.
C'est un art magnifique qui ressemble à une voix, en fait. Hein. C'est d'ailleurs une des particularités du jeu de votre papa, Baiju. Hein. Là, on entend Krishna Bhatt. C'est vraiment sa manière, la Gaya Kiang, cette manière d'interpréter instrumentalement comme si on chantait.
Tout à fait.
Et la musique, oui. La musique est de vous.
Alors la musique, c'est un raga, c'est basé sur un raga que m'a montré mon papa, et puis que j'ai réarrangé avec mon background de musicien de jazz d'aujourd'hui, en réharmonisant tout ça, et puis en l'enregistrant avec une section rythmique jazz et percussion indienne, tabla.
Et donc Krishna Bhatt au sitar et Baiju, vous-même au violon.
Voilà, c'est exactement. Et c'est un morceau pour mon petit, donc un morceau pour les enfants, voilà.
Quel âge, donc le morceau pour Chai.
Exactement.
Quel âge a Chai aujourd'hui?
Il a un peu plus d'un an et demi.
Qu'est-ce qu'on observe de sa relation à la musique? Qu'est-ce que le papa peut dire?
Alors, il adore taper sur des trucs.
Tout ce qui vient.
Et maintenant avec des baguettes. Alors, il sait dire baguette. Et puis
il ira loin, ce petit.
Il a vu le batteur de Redson, Cyril Regamet, et donc le champ lexical dominant de ces dernières semaines, c'est baguette, tambour, Cyril et fort. Voilà. Et il tape sur tout ce qui bouge, y compris des tambours, heureusement.
Il faut dire qu'il y a des divinités en Inde qui vivent avec un tambour.
Oh bah oui, bah toutes, quasiment non.
Et il paraît qu'elles donnent le rythme du monde aussi.
Oui, le monde qui est donc en ré, Ivor, comme vous nous expliquiez.
Oui, mais je
ne
vais pas redonner l'explication que j'ai donnée tout à l'heure hors du micro. Alors, le choix de l'instrument, il semblerait que ce soit tout dit pour Chai, mais ça pourrait changer.
Et surtout, moi j'avais l'envie de vous, dans ce sens-là, de vous poser la question, Maïdjou, du choix du violon, parce que tout à l'heure Cécile l'a évoqué, d'ailleurs ce sera intéressant de vous entendre après réagir, vous avez parlé du violon aussi comme premier instrument, on en reparlera tout à l'heure dans d'autres circonstances, mais pourquoi le violon? C'est vous qui l'avez choisi, Baiju, ou ça a été un imposé ou un essai comme ça?
Alors honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez Cécile, mais je pense que à l'âge où on commence à faire de la musique, la question du choix, c'est de l'instrument, elle est pas vraiment primordiale, dans le sens que déjà les petits ils jouent de tout. S'ils voient une flûte, ils vont souffler dedans. S'ils voient des tambours, ils vont taper dessus, etc. S'ils voient un piano, ils vont pianoter, etc. Dans mon cas, et je pense que dans le cas de la plupart des jeunes enfants qui commencent un instrument, donc ils vont prendre des cours. Je pense que c'est surtout lié à la personnalité de l'enseignant qui va les initier, qui va passer une heure avec eux chaque semaine. Et je pense que c'est ça qui va être déterminant dans le choix de l'instrument.
Mm-hmm. Qu'en pensez-vous?
Bah oui, je suis d'accord pour dire qu'un enfant va forcément choisir un instrument qu'on lui a fait découvrir. Donc ben là, il a vu Cyril Regamet jouer et puis voilà, il a trouvé son modèle. Par exemple, pour ma part, le choix du violon, ça a été que j'ai voulu faire comme mon frère. J'avais le frère qui était juste avant moi, le quatrième de la famille, jouait du violon et j'ai dit moi je veux faire ça. Et il me disait mais parce que tu veux faire comme moi. Et je lui disais non, c'est vraiment parce que je veux faire ça. Et puis bon, ben par la suite j'ai laissé le violon pour le piano parce que je me suis un petit peu affranchie des choix peut-être de la famille. Mais en tout cas, on m'avait pas forcé et il y avait pas de pression, mais il y avait quand même un phénomène d'imitation.
Oui,
certainement.
C'est sûr. Et puis quelque chose de très familial aussi. Je pense que si j'avais grandi en Inde, j'aurais fait du sitar comme tout le monde, comme les cousins, comme les oncles, comme les tantes, comme les etc. etc. Et le fait que je grandisse aussi en dehors de la famille indienne, ça fait que voilà, il y avait d'autres aussi références qui rentraient en jeu, et donc j'ai pu choisir autre chose.
Et puis pour aider les familles où on ne joue pas forcément d'un instrument de musique, les conservatoires et les écoles de musique organisent chaque année, du côté du mois de mai, avant les inscriptions pour la rentrée, des portes ouvertes avec tous les professeurs qui jouent de tous les instruments à disposition. Et j'ai une amie, maman, qui s'est retrouvée avec un fils qui voulait absolument jouer du basson. Elle a eu aucune idée de comment cette affinité a pu naître. Ça vous est arrivé? ça fait bien rire. Baiju, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est génial! C'est incroyable.
Oui,
c'est merveilleux.
Et il part avec son basson et la vie est belle.
Et c'est vrai que chaque année, effectivement, je le vis au mois d'avril en général au Conservatoire de musique de Genève. On met un un professeur d'instrument dans chaque salle et les portes sont ouvertes. Donc les enfants peuvent aller essayer et ça donne lieu à parfois des élèves qui n'ont pas du tout encore l'âge pour s'inscrire, mais qui viennent déjà regarder, s'inspirer et parfois peut-être décider, faire un choix, un déclic.
Et encore, le basson, c'est chouette, ça aurait pu être du clavecin. Ça, c'est un peu plus embêtant pour les parents, ça, d'un point de vue d'intendance.
Oui, effectivement, on peut pas le mettre dans tous les salons. Mais bon, effectivement, il y a des instruments qui exigent plus d'entretien, plus de travail. Puis en fait, le violon, surprenamment, en fait, c'est quand même un instrument qui, au début, est difficile pour un enfant. Il est pas gratifiant. S'asseoir derrière un piano, c'est beaucoup plus rigolo.
Oui, au début, mais après aussi, hein. Mm-hmm. Pas croire. Hein.
Moi, quand j'étais petit, je voulais jouer de la cornemuse. J'étais le quatrième de 5 enfants et tout le monde faisait du piano. On m'a dit non, tu feras du piano. Et du coup, j'ai refusé de faire du piano. Les choses sont revenues beaucoup plus tard. Voilà.
Alors moi, Je vous propose d'écouter David Enko, qui est trompettiste français, cofondateur du Amazing Keystone Big Band. Il a reçu plusieurs prix d'ailleurs, aussi bien en tant que... Il a reçu une victoire de la musique, pour être précis, l'année passée, comme meilleur groupe avec le Amazing Keystone Big Band. Et puis, une autre victoire de la musique comme jeune musicien. C'est vous dire, on commence avec un petit extrait du dernier disque du Big Band et la voix d'Ella, et puis ensuite une toute petite interview.
Bravo ! Bravo !
Derrière la haie, sur son vélo encore chargé des journaux qu'il doit livrer, Louis, le fils de l'épicier, applaudit Bess à tout rompre. « Quelle voix magnifique !» dit-il avec enthousiasme. « Tu chantes vraiment très bien !»« Merci, » dit Bess, troublée par le compliment du garçon. « Non, tu devrais t'inscrire à l'école de chant. Avec ta voix, je suis sûr qu'ils te prendront. » Puis, aussi intimidé que la jeune fille, il remonte sur son vélo. « Il faut que je file, j'ai du travail. » Bonne chance, Bess. Le soir, dans le dortoir, alors que les autres enfants sommeillent, Bess n'arrive pas à s'endormir. Une école où l'on apprend à chanter avec de vrais instruments, de vrais musiciens, ce serait tellement bien. De la fenêtre grande ouverte lui parviennent la musique de la nuit et tous ses petits bruits. Elle reste longtemps à les écouter, à se laisser bercer. Et ce n'est qu'une fois la lune haut dans le ciel que ses rêves finissent par se mêler aux étoiles.
Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec le projet La Voix d'Ella pour les enfants ?
En fait, c'est très simple. Avec cet orchestre, le Keystone Big Band, en fait, depuis la création de l'orchestre, on a voulu faire des projets qui s'adressent évidemment à un public de jazz habitué à cette musique, mais on a eu envie aussi de familiariser les enfants, les plus jeunes, les familles en général, avec ce que c'est que le jazz et l'improvisation. Et du coup, on a fait plusieurs projets avant La Voix d'Ella, qui est le plus récent. On a fait une adaptation en jazz de Pierre et le Loup, une autre du Carnaval des Animaux, toujours en jazz. Ensuite, l'an dernier, on a fait un livre-disque avec Guillaume Gallienne qui s'appelle Monsieur Django et Lady Swing, donc c'était sur Django Reinhardt. Et là, cette année, c'est sur Ella Fitzgerald avec Vincent De Dienne qui raconte une histoire. Et l'idée, c'est, elle est toute simple, en fait, c'est de donner une porte d'entrée pour les enfants qui leur ouvre cet univers qui est le jazz, qui est l'improvisation, qui est le partage que représente cette musique.
Vous êtes né dans une famille de musiciens. Je pense que ça représente quelque chose d'important dans votre élévation, dans votre maturité, dans votre maturation depuis vos plus jeunes années, je n'en doute pas une seconde. Alors ma question c'est, un jour vous m'avez dit lors d'une interview que lorsqu'on est dans la famille Casazu, on travaille un instrument de musique. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Alors, il n'y a pas quelqu'un derrière nous dans la famille avec un fouet pour nous forcer à travailler. Hein. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais oui, c'est vrai que pour nous, c'est très important de donner à tous les membres de cette famille la possibilité de faire un choix, de devenir ou pas artiste. Alors, ça peut être musicien, mais ça peut être aussi peintre, ça peut être... Enfin, peu importe le domaine artistique. Et commencer à travailler un instrument de musique au plus jeune âge, pour moi, c'était vers 4 ou 5 ans. Je pense que ça ouvre des perspectives, ça ouvre des horizons complètement extraordinaires parce qu'on traverse l'adolescence sans spécialement faire une crise d'ado comme beaucoup d'enfants. On s'intéresse à la culture dès le plus jeune âge. En fait, ça éveille l'esprit, à mon avis. Et après, qu'on devienne professionnel ou pas, c'est pas vraiment très important, mais le fait de pratiquer la musique, de la travailler et de la pratiquer avec d'autres personnes en groupe, c'est quelque chose qui me paraît vraiment fondamental. Au même titre que lire, c'est fondamental, qu'aller au concert, c'est fondamental. Je pense que c'est quelque chose de très important.
Soleil couchant, des mots de Paul Verlaine, la musique de David Enko qui est aussi ici à la trompette. Elina Douni chante, Marc Pernou est au piano, Florent Nice contrebasse, Fred Pasqua à la batterie. Un très très beau projet, un très beau groupe qui s'appelle Aksham. Vous avez entendu en fait en exclusivité, surtout en avant-première, cette très belle pièce, Soleil couchant, ici dans Magnétique sur Espace 2 que vous écoutez en ce moment. Juste comme ça, j'en profite pour vous dire que Aksham, vous pourrez les entendre au Beat Jazz à Berne, ce sera demain soir. Et vous pourrez les entendre à Chorus à Lausanne, ce sera le 26 janvier. Et la nôtre, l'autre bonne nouvelle, c'est que vous pourrez les écouter au QI Jazz Festival, donc à partir du début du mois d'avril. Et puis juste avant, au début de l'élément, juste avant la voix de David Enko, vous avez entendu Bravo Bravo avec le Amazing Keystone Orchestra, la voix d'Ella avec toujours David Enko. On parle de lui, il a dit des choses importantes, il parlait de sa famille, la façon dont il a commencé la musique. Ça vous a fait sourire, Cécile Paulin-Rogue?
Bah oui, je me suis dit que
ça vous a rappelé votre histoire.
Oui, on était un petit peu tous tombés dans une marmite, voilà. Mais il a quand même insisté sur le fait que il n'y avait pas le fouet pour dire allez, vas-y. Non, il y a quand même le libre choix et puis finalement un élan assez naturel de s'y mettre à son tour.
Et puis la volonté de fabriquer un matériel pédagogique aussi pour attirer les enfants dans un monde, ça vous connaît également.
Oui, effectivement, pour les pédagogues, c'est quand même très inspirant d'avoir du matériel qui se renouvelle, qui on peut pas utiliser maintenant dans la pédagogie les outils qu'on avait il y a 30 ans. Je trouve que c'est vraiment important de réactiver, de faire des nouveaux enregistrements, des nouvelles pièces, des nouvelles compositions, des outils pédagogiques, des réflexions.
Beit Djoubat, lorsqu'il s'agit de choisir un répertoire pour un orchestre comme les Mini Strings, comment vous y prenez ?
Pour répondre à cette question et puis pour réagir à ce que disait très justement Monsieur Enco au téléphone, il y a cette question de, il mentionnait cette question de la crise d'adolescence parce que pour aller un petit peu plus en détail sur ce chemin-là, je dirais que faire de la musique, ça n'empêche pas de faire une crise d'adolescence, certainement pas. Au contraire, c'est même un moment très important où on a envie de jeter son violon par la fenêtre et faire des trucs
ça
cool,
peut coûter cher.
Faire des trucs cool comme de la guitare électrique ou de la batterie, des trucs comme ça. Et donc, justement, mon travail, c'est en tant que violoniste improvisateur et musicien de jazz, c'est de proposer à ces jeunes musiciens qui sont tous au conservatoire et qui ont des cours d'instruments classiques, voilà, c'est de leur proposer un répertoire un petit peu différent, c'est de leur proposer un terrain de jeu qui est celui des musiques du monde, des musiques populaires, des musiques folkloriques, pourquoi pas du swing, etc., et de l'improvisation, de manière à ce que leur horizon musical soit un petit peu plus étendu. Qu'ils aient la possibilité d'essayer tout plein de choses et comme ça, quand le moment sera venu de choisir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, ils auront toutes les cartes en main pour le choisir vraiment en connaissance de cause.
Est-ce que l'institution vous donne des indications ?
L'institution me fout royalement la paix et ça c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment une grande chance. Donc, bien sûr, les indications, c'est que, voilà, je fais ce que je veux. Et ça, c'est, donc je me sens absolument soutenu par l'institution pour ça. Et je pense que ça, c'est un changement fondamental qui a lieu dans l'enseignement de la musique. Il y a bien sûr eu des choses très pionnières, saut de croche, etc. à l'époque. Et puis, ça continue d'ailleurs, c'est merveilleux. Et je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je vois, quelque chose qui est en train de changer fondamentalement dans l'enseignement, notamment des instruments à cordes, c'est cette inclusivité plus grande. Aux États-Unis, on parle de creative strings, donc c'est même pas juste jazz, c'est toutes les musiques non classiques qui petit à petit sont incluses dans le cursus et dans l'éducation musicale des jeunes musiciens. Et je pense que c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Et il est grand temps que ça se propage. Partout.
Et les participants des Mini Strings ont un droit consultatif sur le répertoire ?
Certes. Après, je pense que c'est une fois de plus la question est un petit peu. Enfin, ce qui se passe, c'est que les morceaux qui sont proposés, ils se les assimilent tout de suite. C'est-à-dire, ils en font quelque chose qui leur est propre. Ça, je pense que Cécile pourra en parler plus, mais un truc qui m'a frappé dès le départ, quand j'ai découvert les Mini Strings notamment, c'est que ces enfants, ils ont leur monde. Ils ont leur monde qui est rempli de merveilles. Et puis tout ce qu'on leur propose, ils vont s'en saisir et en faire quelque chose à eux. La pédagogie qui sous-tend l'ensemble des Mini Strings, qui a été fondée par Tina Strining, c'est de laisser les enfants seuls sur scène, c'est de développer leur autonomie. Quand vous allez voir un spectacle des Mini Strings, ils sont tout seuls. Tina et moi, on est au fond de la salle et on fait rien. Vraiment rien. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on peut faire, nous, en tant que prof, c'est étayer cette chose-là, les assister, les enfants, les encourager, leur donner un cadre, leur donner une structure, mais on n'est pas là pour leur imposer quoi que ce soit et on n'est pas là pour leur dire de faire comme ci, de faire comme ça. On est là pour leur donner ce cadre et les inspirer éventuellement.
Et en même temps, Maïdjou, vous parlez de cadre et tout à l'heure, à plusieurs reprises, on parlait de la dimension ludique indispensable pour le travail avec les enfants, pour l'appropriation par les enfants.
Et puis en même temps, ben, on sait bien que dès le moment où on travaille à plusieurs, on travaille ensemble, qu'on soit un enfant ou qu'on soit un adulte ou un adolescent, mais il y a un certain nombre de règles qui sont différentes suivant les âges, et ça peut passer par l'intégration de certaines notions de discipline pour arriver à un résultat. Comment est-ce que vous gérez, comment est-ce que vous gérez cette question de discipline dans vos travaux respectifs?
Alors, moi, effectivement, qui travaille en collectif, une des bases de la discipline, ça va être d'instaurer un climat de bienveillance, de droit à l'erreur, de respect mutuel. Je pense que c'est vraiment... Sans ça, on ne va pas pouvoir avoir un avancement serein et joyeux dans notre projet. Et puis, justement, à propos de projet... Moi, je pense que, enfin, j'ai l'impression que ça m'aide aussi à motiver les élèves quand il y a toujours une prestation, toujours ou presque toujours une prestation qui pointe le bout de son nez pour aller présenter ce qu'on est en train de travailler. Et ça, du coup, bah, après la discipline, finalement, je sais pas, c'est quelque chose qui vient naturellement, qui découle de ce climat de bienveillance et puis de cette énergie vers le projet de représentation.
Alors, toutes sortes d'approches possibles en découlent. Ça dépend des musiques, ça dépend aussi des cultures, mais probablement que plus on commence tôt, plus on arrive à intéresser, impliquer directement les enfants dans une démarche musicale qui leur appartient d'emblée. Ça fait partie d'eux, ça fait partie de leur identité. C'est en tout cas la thèse d'un certain nombre de pédagogues. C'est aussi celle que soutient une fondation, la fondation Vareille, qui est à l'origine d'un projet magnifique. Ça s'appelle Un violon dans mon école. Et ils travaillent avec les enfants les plus jeunes, vraiment dès le début de la scolarité, avec le violon. C'est étonnant. Là, en Suisse, il y a des écoles qui se sont déjà complètement associées à ce projet-là, à Genève, à Martigny, à Monté, en Valais, donc des enfants à partir de 4 ans qui se retrouvent avec un violon. Je vous propose d'entendre Hélène Vareille, co-créatrice de cette fondation, avec son mari Pierre Vareille, qui nous en parle.
Déjà, chez les Grecs, l'apprentissage de la musique se situait au même niveau que celui des mathématiques et de l'astronomie. Donc, on peut dire que ça fait quand même très longtemps que les humains ont eu conscience qu'apprendre la musique, ça apportait quelque chose de particulier. Après, il y a beaucoup de choses qui sont tombées en désuétude. On a peut-être un petit peu oublié pourquoi, comment. Et depuis quelques années, on voit quand même un regain d'intérêt sur ce sujet. Mais est-ce que l'apprentissage de la musique apporte quelque chose ou non ? Alors, il y a eu toute une première série d'études de fait qui prouvent plus ou moins toutes qu'effectivement, les enfants qui pratiquent un instrument ont de meilleurs résultats scolaires que les autres. Elles sont un peu biaisées, puisqu'il se trouve que les enfants qui pratiquent aujourd'hui un instrument à l'école sont en général des enfants de milieux favorisés. Donc, évidemment, ça joue aussi sur les résultats. Mais ceci dit, je pense que ça a poussé un certain nombre de chercheurs à essayer d'en savoir davantage. On a aussi aujourd'hui tout ce qui se passe autour des neurosciences et de l'étude du cerveau, et qui semble montrer de plus en plus... Tout simplement parce que l'imagerie du cerveau est capable d'observer ce qui se passe quand on pratique un instrument, peut observer la différence entre un cerveau de musicien et un cerveau de non-musicien. Donc il semblerait que la science, effectivement, montre qu'il y a un réel impact physique sur l'apprentissage à l'école d'un instrument de musique. On pourra après revenir sur les raisons qui ont fait que la Fondation Vareille a effectivement choisi le violon. Mais toutes ces études montrent que tout instrument est bénéfique sur la mise en place de beaucoup de connexions, de renforcement de parties spécifiques du cerveau qui se révèlent ensuite tout à fait utiles pour tous les apprentissages scolaires.
Tu crois pas que l'archer il peut aller dans un sens et puis dans l'autre, encore une fois avec moi.
un enfant à l'âge de 4 ans, entre 4 et 8 ans, c'est vraiment une période dans le développement de l'enfant qui est tout à fait essentielle. Un enfant à 4 ans ou 5 ans est capable d'apprendre énormément de choses. Il est en train de se développer sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel. Et en fait, le violon répond très bien à tout ça. Comme vous le savez très certainement, même les gens d'ailleurs qui ne jouent pas de violon s'en rendent un petit peu compte, c'est physiquement très très difficile de bien jouer du violon parce que c'est extrêmement précis. Bon, on a tendance à penser que c'est la main gauche qui fait tout, ce qui est complètement faux parce que la main droite est terriblement, je pense d'ailleurs même que c'est le pire, terriblement difficile dans le violon parce que l'archer, c'est démoniaque. Mais n'empêche qu'il faut, avec la main gauche et avec la main droite, arriver à faire des choses extrêmement précises, extrêmement fines. Et ben, quand vous pensez qu'effectivement on est à l'âge où l'enfant est en train d'apprendre la coordination, la perception fine, c'est rêvé comme terrain d'exercice. Parce qu'il existe pas mal de choses très bien qui se font sur l'introduction de la pratique musicale à l'école, mais la plupart du temps, c'est à partir de l'âge de 8 ans, ou plutôt 7 ans. Alors nous, on a pris le parti de dire qu'il fallait commencer beaucoup plus tôt, parce que il faut jouer, toujours dans notre approche, qui est une approche éducation, soutien au progrès scolaire, qu'il fallait commencer beaucoup plus tôt de manière à être présent pendant cette période extrêmement importante, entre 4 ans et 8 ans.
Message de l'archange Gabriel, c'est un chant de Noël évidemment, ça relève du patrimoine populaire mais c'est magnifiquement arrangé, magnifiquement chanté surtout par le King's College de Cambridge et ses voix de soprano et d'alto qu'on entend, ben, ce sont des tout tout jeunes garçons dont la scolarité est prise en charge par la couronne britannique, ils sont issus de toutes les catégories sociales et la condition c'est simplement que le chant fait partie intégrante de l'enseignement. Donc il y a du chant tous les jours. Et visiblement, tous les gens qui passent par ce cursus deviennent de brillants ingénieurs, entre autres, pas forcément des musiciens. Mais ça, voilà, c'est un peu en résonance avec le propos d'Hélène Vareille, qui nous dit, et puis les résultats qu'on obtient là à Martigny, à Genève, à Monté, déjà avec ces tout jeunes violonistes de 4 ans, 5 ans, apparemment, tous, aussi bien les professeurs de musique que les enseignants, disent, ben voilà, c'est incroyable, il y a des progrès tellement rapides, ils apprennent tout le reste, beaucoup plus facilement que les autres. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'expérience
Cécile Polaroc, vous levez les yeux un peu vers le ciel.
Ouais, bah, je suis vraiment ravie d'entendre ça. Et puis, j'aimerais vraiment qu'on fasse passer ce message très largement. J'ai quand même en mémoire des souvenirs d'enfants qui étaient tellement investis dans les projets qu'on menait et dont les parents me disent, écoutez, il viendra pas la semaine prochaine parce que j'ai dû choisir de le priver de cette activité pour qu'il puisse remonter ses résultats scolaires. Et j'aimerais qu'on dise à ses parents, mais surtout n'abandonnez pas ces activités parce que c'est elles aussi qui favorisent l'équilibre, la motivation et des enfants. Donc oui, alors faisons passer le message.
Baïdjouba,
oui, c'est
d'accord
sûr,
avec ça.
Mais évidemment, et puis c'est clair que quand on parle de musique chez les enfants, c'est lié inévitablement à cette douloureuse question démographique de la sociologie, de la classe. C'est sûr, quand on parle de conservatoire, c'est plutôt des gens qui écoutent Espace 2, voilà, c'est comme ça. Et puis donc toutes les tentatives qui sont mises en œuvre pour diversifier justement l'accès à la musique et le démocratiser un maximum sont à applaudir dès demain. Et souvent ça nécessite des gens, quand je pense à ces professeurs qui enseignent le violon dans les écoles, en tant que prof de violon, je peux vous dire que c'est pas un travail qui est facile et il faut des gens vraiment très très compétents et j'ai infiniment d'admiration pour ce métier.
Là, dans le cadre de la Fondation Vareille, d'ailleurs, il y a toute une pédagogie qui se met en place. C'est un vrai travail. Il est suivi scientifiquement aussi, parce qu'il s'agit pas simplement de faire ça devant toute la classe. Les enfants sont pris par petits groupes. C'est pas non plus de l'enseignement individuel, mais par petits groupes. C'est une expérience dont on va reparler à plusieurs reprises, je pense.
Alors, une des belles portes d'entrée, bien sûr, parce qu'il est temps de conclure maintenant, c'est bien sûr d'aller au concert. Alors là, j'ai un petit papillon devant moi que vous nous avez apporté, Cécile Polaroc. C'est un spectacle qui va être donné dans le cadre du Conservatoire de musique de Genève, ce dimanche 27 janvier à 17h. Ça s'appelle Coup de chapeau, en deux mots, qu'est-ce que c'est ?
Alors, j'ai plusieurs groupes de choristes au Conservatoire de musique de Genève, et là, ça va être les adolescents qui vont préparer un programme que j'appellerais un petit peu un programme coup de cœur. C'est pas une œuvre en tant que telle. J'ai choisi des œuvres qui me semblaient pouvoir vraiment passer et qu'ils se sont appropriées pour les donner sur scène la semaine prochaine.
Merci Cécile Polaroc.
À la salle Franck Martin.
À salle Franck Martin, voilà. C'est noté, dimanche 27 janvier. Baïdjoubat, il y a aussi quelques concerts à venir avec...
Oui, bien entendu. On parle beaucoup de ces ensembles de jeunes musiciens. La meilleure chose à faire, c'est d'aller les voir et les écouter. J'organise pour la seconde fois un festival autour des cordes improvisées, Creative Strings Festival, qui aura lieu les 1, 2, 3 février. Le 1 au Dux à Lausanne, le 2, 3 à Lejma. Vous entendrez les mini strings le 3 février, les Swinging Kids le 2 et Octopus, les grands cousins des mini strings, le 1er, et ça vaut le détour.
Merci infiniment à vous deux, Baïdjoubat, Cécile Polaroc, de nous avoir rejoints. Merci Vincent Zanetti.
Toujours un plaisir.
De faire le chemin avec nous aujourd'hui. Alors nous concluons avec une très jolie chanson que vous avez arrangée. Cécile Polaroc, ça s'appelle Le petit garçon qui met ses doigts dans son nez. C'était dans le cadre du projet.
Non, c'est pas moi qui ai fait l'arrangement.
Mais vous avez dirigé le chœur.
J'ai dirigé le projet et le chœur, mais l'arrangement est de, je pense, Pascal Chenu. Hey, hey.
orbiter. Il fallut la brouette pour le transporter. Et puis un beau jour, quand il fut à point, ainsi qu'une poire pleine tomba dans un coin. La morale, je parie que vous la devinez. Ne mettez plus, je vous prie, le ventre dans vos nez.
Une musique d'Émile Jacques Dalcroze, un petit cœur dirigé par Cécile Ponaroc. C'était le petit garçon qui met ses doigts dans son nez, vous l'aurez compris, un très joli hommage qui avait été réalisé en 2015. Vous écoutez Espace 2, il va être bientôt 18h. Il est temps de suivre une proposition d'Elsa Desjardins qui nous invite au concert, un concert que vous pourrez entendre d'ailleurs demain soir. Le concert a eu lieu le 15 décembre au Victoria Hall avec Guy Angeli de Genève sous la direction de Stéphane MacLeod. Nous allons entendre un petit extrait pour vous donner envie de nous rejoindre demain soir. C'est l'Alléluia qui termine la deuxième partie du message. De Handel. De son de Laurent Deschanel et Elsa Desjardins, l'Alléluia du Messie de Handel, concert donné le 15 décembre 2018 à Genève au Victoria Hall avec Guy Angeli sous la direction de Stéphane MacLeod. Et donc vous pouvez entendre ce concert demain soir dans les concerts de vendredi sur Espace 2 que vous avez choisi. Merci d'être avec nous. Il est temps de passer à la partie portrait de notre émission magnétique aujourd'hui. Eh bien, c'est toujours une chance de rencontrer la pianiste italienne Rita Marcottoli. C'était en septembre dernier, elle a donné un concert à l'AMR à Genève. Elle incarne une part imposante amante du jazz italien qui est très vite devenue européen puis mondial pour elle. Elle s'est retrouvée aux côtés des plus grands et vous emmène avec énergie dans ses concerts parce qu'au piano, il n'y a que de la générosité captivante chez elle, je trouve. Excellente compositrice aussi, improvisatrice sans faille, le dialogue, elle connaît. Elle aime aussi se raconter. Je l'ai rencontrée quelques heures avant un concert tout simplement exceptionnel. Vous avez commencé par la musique classique. Est-ce que c'était la musique que vous écoutiez à la maison?
J'ai commencé le piano lorsque j'avais 5 ans. J'écoutais beaucoup de musiques différentes parce que mon père était ingénieur du son. Il travaillait pour RCA, le grand label américain. Et moi, je l'accompagnais et il enregistrait tous les styles de musique. Il travaillait plutôt pour le cinéma, enregistrant pour Ennio Morricone, Nino Rota et tous ces gens-là, vous voyez. Donc j'ai grandi avec ça et à ce moment-là, j'aimais beaucoup jouer toute cette musique au piano sans la lire. Je ne savais pas encore lire la musique et c'est probablement la raison pour laquelle je me suis intéressée au jazz. Vous savez, la musique improvisée. Alors oui, j'ai suivi le conservatoire classique, effectivement, puis je me suis tournée vers les autres musiques. Je devais avoir environ 15 ans, en écoutant Frank Zappa, Pink Floyd et toutes ces choses. Et puis, j'ai découvert Criss Cross, le disque de Thelonious Monk. C'était mon tout premier disque de jazz et je me suis dit « waouh ». À cette époque, il y avait en Italie ce grand festival Umbria Jazz. Nous sommes au milieu des années 70. Il y avait tellement de gens qui venaient jouer là. J'ai appris beaucoup, écouté énormément de musiciens. Charles Mingus, Horace Silver, Keith Jarrett, Dizzy Gillespie, Miles Davis. Et donc, de plus en plus, je me suis intéressée à cette musique, le jazz.
Marco Tulli, il y a eu une première fois avec des musiciens de jazz sur scène. Qui était-ce?
Oui, bien sûr. La première fois, c'était avec un percussionniste brésilien qui jouait avec Elsa Soares, une excellente chanteuse. Ils ont joué en Italie, il est resté un temps au pays et nous avons eu un orchestre ensemble avec lequel j'ai énormément appris. Et puis après, j'ai beaucoup joué avec des musiciens italiens, Enrico Rava, Roberto Gatto, par exemple. En fait, avec à peu près tous les Italiens. Et je suis partie en France. Nous étions bons amis avec Michel Petrucciani. J'ai rencontré le contrebassiste Furio Di Castri, le batteur Aldo Romano et Michel Benita, le contrebassiste. Et j'ai commencé à enregistrer pour Michel Benita, pour la marque de disque Label Bleu. C'était ses projets. Ensuite, j'ai rencontré Dewey Redman et j'ai joué avec lui pendant plus de 15 ans. C'était une expérience formidable parce qu'on tournait dans le monde entier. Et là, je dois remercier Michel Benita de m'avoir fait rencontrer Dewey Redman.
Help me to meet Dewey.
Qu'est-ce que ces musiciens vous ont apporté spécifiquement?
Dewey Redman, spécialement Dewey Redman, C'est un personnage vraiment singulier, quelqu'un de très drôle. Vous passez votre temps à rire avec lui. Vous savez, c'est vrai que l'ambiance, la vie qu'il apportait à la musique, ça vous plongeait dans son histoire et ça vous maintenait concentré. Il était très libre d'une certaine façon. Il aimait jouer différents styles, il avait l'esprit ouvert et ça a été très formateur pour moi, pour l'écoute, vous savez. Parce que le free jazz, c'est plus compliqué que les autres musiques à jouer, plus compliqué que de jouer sur une grille d'accords. Si vous voulez jouer mélodique dans une musique ouverte, il faut une excellente concentration. J'ai commencé par écouter beaucoup de jazz américain et puis je me suis intéressée de plus en plus à la musique européenne. J'ai découvert des artistes de la marque de disques ECM, le quartet de Miroslav Vitus, par exemple. Et j'ai eu la chance par la suite de jouer avec tous ces musiciens, le trompettiste Kenny Wheeler en big band ou bien John Taylor en duo de piano, même en trio de pianistes avec Paul Bley. C'était comment dire, j'étais jeune et timide face à ces maîtres du piano, mais quelle magnifique expérience.
Puis, vous êtes devenue leader, Rita Marcottoli, et compositrice aussi. Est-ce que c'est une vie différente ?
Oui, j'ai toujours composé d'une certaine façon, parce que dans le jazz, l'improvisation est considérée comme composition instantanée. C'est ce que nous sommes, n'est-ce pas ? Des compositeurs de l'instant. Mais je compose aussi en dehors de l'improvisation. J'aime composer, je le fais depuis longtemps. J'apprécie de pouvoir m'inspirer d'autres compositeurs ou d'une autre thématique, comme dans le projet à propos de François Truffaut. J'ai aussi réalisé un CD intitulé Koiné en 2003 avec des musiciens extraordinaires comme Andy Shepard, Michel Benita à la contrebasse ou encore Palle Danielsson et John Christensen, qui nous viennent de Norvège, et d'autres musiciens des pays nordiques, car j'ai habité pendant 16 ans en Scandinavie. Quand je vous parlais du jazz européen tout à l'heure, j'étais très curieuse de cet aspect du jazz, et je me suis aperçue que cela se passait en Scandinavie, alors je m'y suis installée, et j'habitais tantôt en Italie et tantôt là-bas, et tous ces musiciens cherchaient une certaine originalité, ils cherchaient leur voix, leur propre voix. Il connaissait le langage du jazz, bien sûr, mais il cherchait quelque chose de nouveau.
Rita Marcottoli, lorsque l'on parle avec une musicienne de jazz, une femme qui évolue dans un contexte assez macho et avec les événements récents, est-ce que vous avez pu constater une évolution dans la façon dont les musiciens mâles se comportent avec les musiciennes ?
Yeah, of course, when I start, you know, it always was a little bit, okay, for be a woman.
Quand j'ai commencé, évidemment, c'était du genre, c'est une femme au piano, elle joue aussi bien qu'un homme, c'est ce qu'écrivaient les critiques, vous voyez. C'est un compliment dans un sens.
France. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Je pense que c'est une question de culture. À cette époque, les femmes étaient à la maison avec les enfants, elles faisaient autre chose. Mais l'art, il n'y a pas de genre dans l'art. C'est la bonne chose. L'humain, le centre de la question, c'est que l'humain veut s'exprimer. Il est question de caractère, de personnalité. Maintenant, écoutez un CD que vous ne connaissez pas, sans regarder la pochette, fermez les yeux et dites-moi si c'est un homme ou une femme qui joue. Vous voyez? Si on commence à se concentrer sur le fait que c'est un musicien ou une musicienne, ça n'a pas de sens. Il s'agit de personnalité. Si vous imaginez qu'une femme est plus romantique, qu'elle doit jouer plutôt du Chopin, par exemple, non, tout dépend de la touche personnelle que vous avez en musique, ainsi que dans tous les arts, par ailleurs.
Et aujourd'hui, est-ce que ça va dans le bon sens?
Oh yeah, yeah. Now there are many more women than play, you know.
Ah oui, tout à fait. Il y a de plus en plus de femmes qui font de la musique. Là, je viens d'enregistrer avec la chanteuse danoise Cécile Norby dans un groupe intitulé Sisters in Jazz. C'était ma première fois avec des musiciennes de toute l'Europe, très bonnes musiciennes. Je n'aime pas quand on monte des orchestres de femmes juste pour dire que c'est un orchestre féminin. Ça n'a pas de sens. La musique, c'est autre chose pour moi. Mais si vous rencontrez des musiciennes avec lesquelles vous sentez le courant passer et que votre approche commune de la musique fonctionne bien, alors c'est formidable. Ma percussionniste favorite est Marilyn Mazur. La façon dont elle construit le dialogue est juste fantastique.
Vous avez composé pour le cinéma également, Rita Marcottoli, et vous avez reçu des prix. En 2010, le ruban d'argent de la meilleure musique de film, le Siak d'Oro, et en 2011, le David Di Donatello du meilleur musicien pour la bande sonore de Basilicat Coast to Coast, réalisé par Rocco Papaleo.
Oui, si on repart de mes débuts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon père était preneur de son pour le cinéma. Et c'est lui qui a enregistré la musique de Il était une fois l'Amérique, l'ultime film de Sergio Leone en 1984. Je me souviens de la séance d'enregistrement. Et puis il y a eu cette opportunité avec Rocco Papaleo, qui est un acteur célèbre, et me propose de faire la musique pour ce film Basilicat Coast to Coast. Mais en Italie, le prix David Di Donatello est le plus important. Donc oui, parfois je compose pour le cinéma et j'aime beaucoup faire ça.
Quelles sont les conditions idéales pour écrire, pour composer? Un endroit tranquille plutôt?
Oui, mais cela dépend plus de l'humeur du moment que du lieu. Vous pouvez être gai ou triste et ces émotions vont se retrouver dans la musique que vous écrivez. Et parfois, clac, vous avez une chanson formidable qui vous tombe dans les mains. Mais il m'arrive aussi, lorsque je pratique l'instrument, de découvrir de nouveaux éléments de composition, que ce soit des polychords ou des mélodies ou quoi que ce soit. Et puis, simplement aussi, vous pensez, disons, à la mer. Et là, vous êtes envahi par les vagues, le vent, la houle, et ça vous inspire. Ça a donné Waves and Wind, les vagues et le vent.
Entretenu un certain nombre de duos avec des pianistes ou des souffleurs, comme avec Andy Shepard, avec qui vous jouerez ce soir, ou Luciano Biondini, l'accordéoniste. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le duo ?
Quand vous jouez en duo, vous avez votre propre orchestre. Vous pouvez tout jouer. C'est une esthétique différente, une couleur différente. Ce n'est pas que je préfère ou pas, c'est juste différent. Par exemple, Israël Varel, le batteur qui joue avec nous ce soir. Il est aussi chanteur. C'est un fantastique batteur et un fantastique chanteur qui connaît, par exemple, tous les aspects du flamenco. Ça fait de lui un batteur singulier, vraiment unique, et nous sommes les deux très intéressés par la polyrythmie. Il nous arrive de donner des concerts en duo, nous nous concentrons alors sur l'aspect polyrythmique de la musique pendant ces rencontres. Tandis qu'avec Andy Shepard, notre saxophoniste ce soir, nous jouons des choses plus mélodiques. Si nous sommes en duo, un répertoire un peu plus jazz aussi. J'ai plus d'espace, en un sens, mais c'est aussi plus exigeant, parce qu'avec un contrebassiste et un batteur, vous pouvez jouer juste une note et attendre en silence. À deux, je peux aussi jouer le silence, parce que chacun a le temps à l'intérieur, mais il faut nourrir le propos.
Comme beaucoup de pianistes, vous cultivez aussi des trios, dont celui avec Palle Danielsson à la contrebasse et Roberto Gatto, puis Peter Erskine à la batterie. Est-ce que c'est le trio idéal de Rita Marcotulli?
Oui,
c'est merveilleux de jouer avec eux. C'est comme une limousine, comme j'aime dire parfois. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. C'est fabuleux, comme ces musiciens de légende ont du respect pour les autres musiciens. Pas de défis ou d'attitude égocentrique. Ils sont toujours à l'écoute. Ils ne jouent jamais de notes inutiles. Juste les bonnes notes et la musique avance. Elle vit. L'énergie est là. Et si vous poussez un peu, alors ils sont là et vous accompagnent sur des kilomètres, comme une voiture. Je me sens très chanceuse d'avoir un pareil trio avec ces musiciens hors du commun.
Comment va le jazz? Comment le voyez-vous? Est-ce que le mot a encore du sens?
Je pense que c'est une grande musique et qu'elle n'arrête pas d'avancer. Parce que bon, les fanatiques veulent enfermer le jazz dans son histoire, le bebop, le swing et autres. Alors oui, le langage du jazz est passé par là, Charlie Parker, John Coltrane ou Ornette Coleman avec le free jazz. Mais il n'arrête pas d'être contaminé au fil du temps, quoi qu'il en soit. Mais c'est toujours du jazz, du free jazz peut-être, ou une autre étiquette, mais il avance, il se mélange. Et c'est pourquoi il est toujours très vivant aujourd'hui. En plus, les jeunes musiciens aujourd'hui sont très bons, ils nourrissent cette musique. Ils écoutent beaucoup d'autres choses, des musiques de tous les pays, d'Inde par exemple, et apportent ces influences dans le jazz. Parfois, il manque un peu de cœur dans l'interprétation.
Play one note.
Et jouer juste une note. Le moins donne le plus, comme on dit parfois. Mais peut-être que ça vient avec l'âge. Au début, quand on est jeune, il faut plus montrer ce que l'on sait faire. On joue des tas de notes et puis après le temps passe et on n'a plus besoin de ça. On n'utilise plus les mêmes moyens pour décrire ce que l'on ressent. C'est la poésie. Il faut transmettre une émotion. Selon moi, c'est important. J'aime aussi beaucoup la pop musique. C'est une partie importante de ma vie. J'ai joué avec Pino Daniele, le chanteur italien, pendant plusieurs années. Il adore les musiciens de jazz et tous les musiciens de jazz l'adorent, que ce soit Chick Corea ou Mino Cinelli ou encore Wayne Shorter.
J'ai aussi tourné avec Pat Metheny, qui tournait avec Pino Daniel, et c'était une expérience magnifique parce qu'accompagner un chanteur, c'est encore un autre travail. Et là, j'ai encore appris à quel point jouer le moins donne le plus, surtout dans la pop music. Vous devez jouer juste l'essentiel.
Nous aimons conclure nos portraits avec une suggestion d'écoute de nos invités, Rita Marcottoli. Quel est le disque qui vous a marqué, que vous avez envie de partager avec nos auditeurs?
For example, Estate de Michel Petrucciani Play.
Ça pourrait être Estate, par Michel Petrucciani en trio, parce qu'on était toujours en train d'écouter ce CD ensemble, ou bien un disque de Bill Evans, celui où il joue avec orchestre classique. Mais si c'est un jeune musicien, ce serait Tigran Amassian. J'arrive jamais à dire son nom. Il est très original. C'est un génie.
Merci Rita Marcottoli.
Merci à toi. Merci à toi.
Thank you.
Et c'est Tigran Amasyan que nous interrompons ici. The American, tiré d'un disque paru chez SCM intitulé For Gyumri, Tigran Amasyan enregistré à Meudon en France, qui concluait cet entretien avec la pianiste italienne Rita Marcotulli, que nous avons eu la chance de rencontrer pour Magnétique, que se conclut tout simplement, tout gentiment maintenant, du côté de 18h30 qui s'approche. Une émission qui était possible grâce à Vincent Zanetti, Karine Deladoé, Stéphanie Gocci, nos attachés de production indispensables, et Christophe Esseva qui vient de réaliser cette émission avec brio.